Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Et bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui nous allons parler de l'association L'Enfant Bleu, donc c'est une association qui œuvre pour l'enfance maltraitée. D'ailleurs, on va parler d'un sujet un petit peu difficile ce soir, donc si vous êtes un peu sensible à ce genre de sujet, je vous invite à aller sur une autre chaîne. Et on est accompagné aujourd'hui de Régis Deschamps, bonjour.
Bonjour.
De Valérie Bresse.
Bonjour.
Et de Noël Wendels.
Bonjour.
Donc on va commencer par parler un petit peu de l'association, si ça vous dérange pas.
Avec plaisir.
Alors il me semble qu'elle existe depuis un petit bout de temps. Comment un peu elle est née, depuis combien de temps elle existe, pourquoi elle s'est créée, plein de questions en une seule question.
Alors c'est une association effectivement qui fête ses 36 ans cette année, qui a été créée en 1989. C'est une association nationale et qui a des antennes donc sur le territoire, notamment en région Aura, Occitanie et en région PACA. C'est une association qui a été créée par Lorraine Roussel, qui était une personne qui a été victime de violences durant l'enfance, qui a écrit un livre à ce sujet et qui a fait le constat suivant, c'est que quand on est jeune et qu'on est victime de maltraitance, on est très isolé et on a des difficultés à pouvoir verbaliser son vécu et notamment on est souvent en difficulté en termes de confiance à pouvoir parler aux institutions et que un lieu associatif, bienveillant, d'écoute pourrait être adapté pour que des jeunes ou des moins jeunes puissent effectivement venir verbaliser son parcours et son vécu. Donc c'est sur ce constat-là qu'elle a créé donc l'association L'Enfant Bleu 89 et l'association existe donc sur Grenoble depuis 95. Donc effectivement c'est une association qui a déjà plusieurs années et qui a pour vocation donc d'accompagner les personnes qui ont été victimes durant l'enfance, qu'elles soient mineures mais qu'elles soient adultes également. C'est-à-dire que peu importe l'âge de la victime quand elle s'adresse à nous, qu'elle ait 10, 20, 30 ou 40 ans ou même plus, on va l'accompagner à partir du moment où elle a été victime durant l'enfance.
Oui, donc vous êtes... Bon, après, je suppose que ce n'est pas forcément des gens mineurs qui viennent directement vous voir, c'est plutôt des proches.
Alors, on accompagne en niveau du pourcentage, on a à peu près 60% de mineurs qu'on accompagne et 40% de majeurs. Okay. Donc, on accompagne aussi beaucoup de majeurs. Et notamment sur l'antenne Isère, on accompagne beaucoup d'étudiants, puisqu'on a une ville qui est quand même très étudiante, hein, avec oui. 60 000 étudiants. Donc, on accompagne beaucoup de jeunes étudiants de 18-25 ans, parce que c'est souvent aussi au moment où on s'éloigne de sa famille, où on commence ses études, où il y a un éloignement géographique, que les choses aussi... permettent d'avancer au niveau de la prise de conscience de ce qui est vécu. Donc on accompagne aussi beaucoup d'étudiants. Mais ceux qui nous contactent de manière directe, effectivement, ce sont essentiellement des adultes, puisque nous avons une cellule d'écoute 3 jours par semaine, les lundis, mardis, et mardi, mercredi, jeudi, excusez-moi, donc c'est le 04 76 86 16 69. Et ce sont essentiellement des adultes qui nous appellent, soit des victimes qui ont été donc victimes durant l'enfance, qui sont désormais adultes, qui vont nous contacter, soit des proches de victimes, le conjoint, la conjointe, le petit ami, le parent, le meilleur ami, le parrain, la marraine, les grands-parents, enfin vraiment l'entourage souvent amical et familial qui va nous appeler pour nous dire voilà, je connais une personne qui va pas bien parce qu'elle a subit des violences, elle a du mal à en parler et on voudrait qu'elle soit accompagnée. Et ça va permettre de créer le lien avec l'entourage de la victime et au fur et à mesure de tirer la pelote de laine et d'arriver à cette personne pour l'aider à l'accompagner. Et enfin, on a de temps en temps donc, des mineurs qui nous contactent. Mais c'est vrai que c'est moins par téléphone parce qu'ils n'ont pas le réflexe du téléphone. Donc ça va plus être en lien avec notre site, hein, soit par mail, soit à travers le site internet.
Oui, puis... J'imagine que des fois, c'est un peu compliqué d'appeler. aussi.
C'est toujours de, très compliqué.
Même adulte, des fois, appeler...
Vous avez complètement raison. C'est un acte, Valérie Bresse, psychologue clinicienne, partenaire de l'association, parlera mieux que moi, mais c'est un acte extrêmement important et très fort, hein, d'appeler une association d'aide aux victimes, d'accompagnement d'enfants victimes de violences. C'est pas anodin. Ça veut dire déjà se reconnaître comme une victime ou comme une personne qui est légitime à être accompagnée par une association parce qu'on a subi des violences. Et donc, ça veut dire déjà que la personne a enclenché un processus. Hein. Donc, c'est effectivement pas anodin. C'est se reconnaître en tant que victime, se sentir légitime à être accompagnée, accepter de l'aide. Donc, tout ça fait que c'est déjà assez lourd. Donc, on a beaucoup de personnes qui nous appellent parce que souvent, c'est un mal-être qui les pousse à nous appeler. Ils ne savent plus comment gérer la réviviscence du parcours traumatique. Et quand ils nous appellent, souvent, ils ne veulent pas derrière tout de suite engager des démarches d'être accompagnés par un psychologue, un avocat, un juriste. Souvent, ils testent un petit peu le lien, ils voient si vraiment ils sont légitimes. Et donc, on a toute une cellule d'écoute qui, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vont être en lien avec ces personnes pour restaurer la parole, tout simplement. Parce que j'aime à rappeler, je crois que c'est important, que la violence est avant tout une destruction du langage et qu'il va falloir restaurer la parole par la confiance, par l'écoute bienveillante. Et c'est pour ça que notre cellule d'écoute est très, très importante.
Et donc, vous parlez de cette cellule d'écoute, mais du coup, est-ce que vous intervenez aussi au niveau juridique ?
Alors, une fois que le lien est créé et que la personne fait état donc de difficultés en termes de violences vécues durant l'enfance, on va proposer à cette personne trois accompagnements. Comme je le disais, un accompagnement à l'écoute qui est très important, c'est-à-dire lui permettre d'être en lien, retrouver un lien social et pouvoir parler de ce vécu, parce que bien souvent, les personnes vont nous appeler et n'auront parlé à personne de ce qu'ils ont subi, même à leurs proches et même à leurs personnes de confiance. Parce que c'est tellement compliqué, tellement intime, que parfois, d'en parler aux proches, c'est encore plus compliqué que d'en parler à une personne anonyme. Donc, ça peut être anonyme, hein, l'échange téléphonique peut rester anonyme. Et donc, il y a cet accompagnement à l'écoute qui est très important pour restaurer la confiance et aider la personne à prendre conscience de ce qu'effectivement, ce qu'elle a vécu n'est pas normal. Et ensuite, on va proposer donc un double accompagnement, à la fois juridique, avec deux juristes salariés de l'association et deux avocats partenaires, et un accompagnement psychologique avec quatre psychologues cliniciens partenaires de l'association, dont fait partie Valérie Bresse, ici présente.
D'accord, très bien. Mais donc du coup, vous étiez en train de parler aussi du fait que les jeunes, quand on est plus jeune, on a beaucoup plus de mal à appeler, à communiquer. Est-ce que ça aussi vous oblige à trouver d'autres moyens pour... informer les jeunes.
Bien sûr, alors on essaye, c'est très important et votre question est pertinente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, les jeunes ont du mal à nous contacter, tant pis, on va rester comme ça, il faut aller vers. Donc l'une des missions très importantes de l'association, c'est les actions de prévention. Donc on a un agrément du ministère de l'Éducation nationale et un agrément éducation populaire et jeunesse qui nous permet d'intervenir d'une part dans toutes les écoles de l'Éducation nationale, les collèges et les lycées, pour faire des actions de prévention, pour aller vers, pour parler aux plus jeunes de ces sujets-là, pour qu'effectivement ils puissent, le cas échéant, verbaliser ce qu'ils vivent chez eux. Et on a également un deuxième agrément qui nous permet d'intervenir auprès des clubs sportifs, auprès notamment des centres de loisirs, auprès des écoles de musique, donc tout le périmètre socio-culturel, pour aussi faire de la prévention et intervenir auprès des professionnels de l'enfance, parce que l'idée aussi, c'est de pouvoir sensibiliser les professionnels qui sont en première ligne en lien avec des enfants et les former sur ces sujets liés aux violences faites aux enfants. Donc voilà, on développe vraiment ces préventions, c'est fondamental, et on développe aussi des expérimentations. Notamment, on avait créé un personnage enfant bleu dans le jeu Fortnite, puisqu'on sait que les jeunes de 11-16 ans à 60% jouent à ce jeu et sont beaucoup derrière les jeux vidéo, et ça a été une expérimentation qui a extrêmement bien marché, puisque en un mois, on a eu 30% de contacts en plus de cette tranche d'âge.
C'est aussi s'adapter un peu au monde des jeunes, et pas que les jeunes s'adaptent.
Exactement.
Eux à l'association. Je pense que ça met dans un climat un peu plus de confort, une zone de confort qui...
C'est qu'ils sont là et c'est leur mode de communication. Donc on essaye aussi sur les réseaux sociaux, parce que vous savez, maintenant les jeunes, ils passent pas des coups de fil, et même les étudiants qui nous écoutent, ils passent pas des appels pour papoter comme nous on peut le faire les plus anciens. Donc ça fonctionne par des vocaux, du TikTok, du Insta et compagnie. Donc il faut être dans ces endroits-là pour pouvoir leur parler et qu'ils puissent eux nous contacter. Et là on vient de lancer, là pour le 20 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux enfants, une action, un dispositif de distribution de 15 000 t-shirts auprès de 1500 clubs de sport. Et sur ces t-shirts de sport, il y a le logo et un QR code de l'Enfant Bleu pour que les jeunes puissent nous contacter. Donc ils fonctionnent très bien avec les QR codes, avec leur portal. Oui, bah et oui. Voilà, il faut qu'on mette à disposition ces outils là où sont les enfants, dans les écoles, dans les clubs sportifs, dans les écoles de musique, etc.
D'accord, très bien. Et là, on approche d'une période de fête. Est-ce que, par exemple, vous avez plus d'appels au niveau de la période de fête, plus d'appels ou de mails ou de messages au niveau des périodes de fête? Parce que, on va pas se mentir, je pense que c'est quand même une période assez difficile, les périodes de fête.
Alors, j'ai envie de dire, malheureusement, on a, nous, en termes d'appels, une constante sur toute l'année. C'est quand même très dense et ça ne cesse d'augmenter. Hein. Moi, depuis que j'ai pris la direction de l'antenne Isère il y a 4 ans, on a une augmentation de 15% par an d'appels. Là, on est à peu près à 2500 appels sur l'année. Donc, c'est assez régulier de mois en mois, mais c'est vrai que malheureusement, le mois de novembre et décembre sont quand même des mois où il y a une recrudescence des appels. Il y a une augmentation toujours en fin d'année liée au fait, et ça aussi, Valérie Bress en parlerait mieux que moi, que c'est des mois, et notamment dans les tentatives de suicide et les suicides qui augmentent sur ces périodes-là. Mois de novembre est un mois qui est effectivement pas forcément très facile en termes de météo et sûrement pour d'autres raisons, mais Noël, c'est vraiment un épicentre très important pour les personnes qui sont en souffrance psychique, parce qu'il y a un peu une injonction au bonheur sur cette période-là. Toute la communication autour de la consommation, autour de la féerie de Noël et cette prétendue bonheur imposé, fait que quand on est mal et qu'on a vécu des choses difficiles, ça vient percuter, je pense, encore une fois, son parcours et son équilibre. Et du coup, effectivement, on a souvent des situations de mal-être qui s'exacerbent à ce moment-là, et on a un peu plus d'appels, effectivement.
Ok, d'accord, je vois. Et du coup, on est aussi aujourd'hui avec Noël Wendels, oui. Donc, qui est ambassadeur de l'association. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer votre parcours, comment vous vous êtes retrouvé ambassadeur de cette association?
Bien sûr. Alors moi, j'ai vécu une enfance très 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 difficile pendant 19 ans. J'ai été malheureusement battu par mon père, qui était alcoolique. Et j'ai vu ce qui m'a le plus marqué, c'est pas tant les coups que j'ai reçus, comme je dis souvent, c'est surtout ce que j'ai vu, la violence que mon père pouvait engendrer envers ma mère et mes frères. Ensuite, je suis rentré à l'armée à l'âge de 20 ans. Donc, je suis ancien militaire de carrière, appelé du contingent, à Douai, dans le Nord, de là où je viens. Et après, à partir de 20 ans, j'ai commencé à me construire en tant que militaire. Après, j'ai trouvé ma résilience dans le monde du sport. Donc, j'ai été, au départ, j'étais coureur à pied. Mes chefs se sont rapidement aperçus que j'avais un niveau qui n'était pas trop mauvais. Du coup, ils m'ont recommandé de mettre à la compétition. J'ai commencé à courir. Puis effectivement, après, avec le temps qui passait, j'ai fait des bonnes places. Je faisais des bons placements. J'ai fait quelques podiums aussi. Et ensuite, le régiment où j'étais, il a été dissous en 2003. Donc, parce que l'artillerie sol-air était un système d'armes très cher. Du coup, ils ont pris la décision au niveau de l'État de dissoudre tous les régiments. Et donc, moi, j'ai demandé ma mutation à Vars, où je suis arrivé au mois de juillet 2003. Et après, à partir de là, j'ai pris mes marques au niveau du régiment. J'ai participé à mon premier cross régimentaire au mois de novembre. Et à partir de là, j'ai fait une très belle place. Et j'ai un de mes chefs qui m'avait proposé de faire du triathlon, discipline que je ne connaissais pas du tout, et à mon grand regret, parce que je pense que j'aurais pu faire des belles choses, mais bon, c'est comme ça.
Vous vous êtes révélé en triathlon?
Ouais, voilà, c'est ça. Et après, donc, j'ai eu, avec le temps, j'ai vite progressé. C'était compliqué au départ, surtout la natation, parce que c'est un travail de longue haleine, mais j'aimais bien. Et après, j'ai surtout percé dans le duathlon. Donc, duathlon, c'est course à pied, vélo et course à pied. Et donc, j'ai un de mes chefs qui m'a, comme il me suivait régulièrement sur mes compétitions ainsi que sur mes résultats, il m'a dit, ce serait bien un jour que tu ailles participer à une course qui est assez importante. Donc, c'était le championnat de France militaire de duathlon à Saint-Mexant, donc l'école formateur des sous-officiers de l'armée de terre. Et donc, j'ai été participer en tant qu'amateur. Et de l'amateur que j'étais, je suis devenu élite. J'étais devenu athlète de haut niveau. Et donc après, bon, j'ai continué. Après, je suis revenu au régiment. Je suis parti en reconversion. Et quand je suis revenu au régiment, au mois de septembre, et au mois d'octobre, le bureau des sports avait voulu me récupérer pour que je devienne athlète de haut niveau. Donc, j'en étais arrivé là quand même. Et bon, voilà, j'étais en fin de carrière. Et après, ben, j'ai continué dans le monde du sport. J'ai arrêté le triathlon parce que ma vie professionnelle allait prendre le dessus. Parce que le professionnel, c'était important pour moi. Et donc, j'ai fait plusieurs petits travaux. Et aujourd'hui, je travaille au Crous de Saint-Martin-d'Air. Je suis agent de maintenance depuis le mois de septembre 2018. Et donc, comme je vous dis, je continue toujours dans le monde du sport. Et depuis le mois de novembre, l'année dernière, il y a des gens qui m'ont recommandé de contacter l'association L'Enfant Bleu. Donc, je les ai contactés. Et donc, j'ai réussi à avoir M. Deschamps. Et donc, je lui ai donné l'objectif que je vais vous dire. J'ai un objectif qui cerne en trois parties. Premier objectif, c'était de créer des partenariats dans le but de réunir des fonds justement pour subvenir aux besoins des enfants maltraités. De ce côté-là, j'ai pas trop mal avancé. J'aimerais adresser des remerciements avant de passer à l'étape suivante. Donc j'aimerais remercier en particulier la société Cotib, le bureau d'ingénierie du bâtiment, avec qui j'ai fait un gros partenariat pour l'association. Ensuite, j'aimerais remercier l'agence locale Groupama de Domaine, avec M. Pinero et Mme Faure, qui m'accompagnent aussi depuis 2 ans dans mes partenariats divers. Et aussi Björka, la marque de vélo, et le domaine de l'optique, qui m'ont donné une paire de lunettes. Voilà, je tiens à la remercier parce que c'est important. Quand on vous donne, il faut savoir dire merci. Et donc, voilà, donc chercher des partenariats, tout ça. Le second projet que j'avais pour l'association, c'était donner de la visibilité. Donc, vous en faites partie.
Ça tombe bien, vous êtes à la radio.
Exactement, j'allais le dire. Donc, depuis le début d'année, j'ai eu 2 interviews radio. Donc, un sur News FM et un sur Radio RKS. Aujourd'hui, le troisième avec vous. Et j'attends peut-être d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine un éventuel passage sur France 3. Voilà, donc wow. ça, j'aimerais bien, je serais très content de pouvoir essayer de faire passer un message justement pour l'association. Et le troisième projet, qui est le projet ambitieux, comme je vous le disais tout à l'heure, moi je suis ancien athlète de haut niveau, et aujourd'hui j'arrive à conserver un niveau pas trop mauvais. Mon objectif, ce serait d'un jour porter les couleurs de l'association au championnat du monde de triathlon en France.
Ok,
voilà, donc,
c'est un sacré projet.
Voilà, c'est ça, donc du coup pour ça je cherche... à titre personnel, je ne le cache pas, soit des partenariats ou éventuellement un sponsor chez Adidas, parce que c'est une marque de sport que j'aime beaucoup. Et donc voilà, si quelqu'un pourrait entendre ce message, qui m'appelle. Merci.
Au passage,
merci madame.
Et je peux rajouter que Noël a déjà porté les couleurs de l'association lors de courses, et notamment en équipe, lors de l'équidène de Grenoble. Il y a une très belle équipe enfant bleu qui a couru. Et c'est vrai que c'est toujours un moyen de sensibiliser que je trouve très pertinent, parce que c'est le sport, et Noël en est le témoin, est aussi comme la musique, comme plein d'autres domaines. Et là aussi, Valérie pourra en parler, mais des fois, un moyen thérapeutique très puissant.
C'est libérateur.
Et en tout cas, libérateur, et puis aussi de montrer, Noël, je trouve, en est un très bel exemple, que, comme il le dit souvent, on peut se reconstruire et faire de belles choses sur, malheureusement, des violences qu'on a pu subir, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Et est-ce que, alors, vous, si vous voulez pas répondre, il n'y a absolument aucun problème.
Allez-y.
Est-ce que vous avez eu du mal à avoir une certaine acceptation par rapport à ce qui s'était passé?
Par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais petit?
Oui.
Oui, au départ, ça a été compliqué. Toute personne qui vit des choses comme ça a du mal à se projeter, parce qu'en fin de compte, on vit des choses difficiles pendant un certain nombre d'années. Heureusement, au bout d'un moment, quand on a de la chance, on va dire que ces choses cessent. Donc du coup, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Pour moi, ça a commencé à aller mieux. Et il a fallu que j'ouvre les yeux, que je me dise, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Parce qu'à beaucoup d'un moment, cette situation s'est calmée, tant mieux pour ma mère, mes frères et moi. Et à partir de là, bon, j'ai eu la possibilité de rentrer à l'armée, comme je vous disais tout à l'heure, en décembre 97. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me construire, quoi. Parce que jusqu'à mes 19 ans, en fin de compte, j'avais une vie chaotique.
Oui.
Comme je dis souvent à des gens, comme je peux le dire ici aujourd'hui, ce que moi j'ai vécu en tant qu'enfant, si j'avais un ennemi, je ne souhaiterais pas de voir ou de vivre ce que moi j'ai vécu. Et quand je dis ça, je pèse mes mots. J'ai été très 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 compliqué. Je sais qu'il y a des enfants ou des adultes qui vivent des choses pires que moi, je le sais. Mais ce que moi j'ai vécu, je ne le souhaite à personne.
Et, voilà.
Et heureusement, alors je ne sais pas d'où ça vient, d'où me vient cette force, mais j'ai un tempérament d'acier. Voilà, on va dire que j'ai toutes ces vilaines choses que j'ai vécues quand j'étais petit, c'était dans un tiroir. Un jour, le tiroir s'est fermé, j'ai balancé la clé et je me suis dit, maintenant, il faut que je me construise. Et après, je ne peux pas chasser mes démons. Hein. Ce que j'ai vécu, c'est un poids que je porterai toute ma vie sur mes épaules. Mais malgré tout, j'arrive à faire abstraction. Et aujourd'hui aussi, je suis très reconnaissant de ma femme et de mes enfants et de ma belle famille. Parce que quand j'ai des problèmes, je leur en parle et ils sont toujours là pour moi. J'adore ma femme. Et j'aime beaucoup ma belle-mère. Quand j'ai des problèmes, je ne le cache pas, hein, parce que souvent les gens vont se renfermer sur ses amis, les gens qu'on a autour de nous en premier lieu, mais il ne faut jamais oublier la famille. Moi, j'ai ma mère et mes frères qui sont encore là aussi, j'en parle. Hein. Ma mère et mes frères, eux, ils sont dans le nord, donc c'est plus compliqué. Par contre, ma famille qui est ici présente tous les jours, ma belle-famille, ainsi que ma femme et mes enfants, je les appelle régulièrement. Moi, quand j'ai un truc qui ne va pas, je téléphone à la belle-mère.
Mais vous avez tout un cercle proche qui permet la communication.
Exactement. Voilà, exactement. Et je le dis aujourd'hui à la radio, je suis content d'être... Je suis fier d'avoir ma femme avec qui ça fait 20 ans que je suis aujourd'hui et qui m'a donné deux beaux enfants. Voilà.
Bah, c'est super. On va faire un petit interlude musical et après, on parlera un peu plus tout ce parcours d'acceptation... De tout ce silence qui permet pas forcément un parcours d'acceptation d'ailleurs.
D'abord il y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, et puis il y a moi aussi, et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit. Mais t'en as rien à faire, toi. Ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Et c'est bien ça le problème, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Et j'assume. T'étais où? Sûrement que t'existes pas. Pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi? Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma. Mais t'en as rien à faire, toi. Ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Ou faudrait qu'on t'harcèle, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse. Jamais entendu, je t'accuse. Pour celles qui prennent la plus lourde des peines, pour les victimes de ton système, je t'accuse et j'assume.
Vous écoutez toujours l'apérophonie sur la 90.8 et on vient d'écouter Je t'accuse de Suzanne. Donc moi j'ai choisi qu'on écoute cette chanson parce que bien qu'elle soit destinée à parler de violences sexistes et sexuelles, je trouve qu'elle colle elle colle hyper bien avec nos sujets aussi, parce que bah, dans les, je suppose aussi que dans les maltraitances, on parle aussi de violences sexistes et sexuelles déjà. Et elle parle de tout ce rapport avec bah, le silence, la justice, enfin, toute cette loi du silence qui fait qu'on n'en parle pas assez, je trouve. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette espèce de, bah, ouais, de loi du silence qu'on a à propos de, des maltraitances chez les enfants?
Alors, oui, comme vous le dites, la question des maltraitances, même si elles sont de plus en plus évoquées dans tous les médias, elles restent quelque chose qui est difficilement visible, acceptable, entendable, et souvent donc banalisé, minimisé, et une tentative de les mettre, comme je le dis, sous le tapis, de ne pas les voir, parce que la violence, c'est la violence, même si c'est interdit et qu'on a de cesse de le rappeler, elle fait violence elle-même, de devoir en effet l'observer et la repérer. Donc, de ce fait, il est très difficile, en effet, pour les personnes qui la subissent, de l'évoquer, et c'est surtout très difficile pour eux, s'ils l'évoquent, d'avoir le sentiment qu'on les croit. C'est aussi une dimension qui n'a pas encore été un petit peu évoquée dans cet échange, mais les victimes de tout type de violence sont en difficulté pour parler parce qu'ils ont le sentiment qu'on ne va pas les croire. C'est une des premières choses, et les bénévoles qui sont écoutants, ou les thérapeutes, ou même les juristes, c'est une des premières choses, en effet, auxquelles on est extrêmement sensibilisés, et on essaye de leur transmettre ce message en premier, c'est que bien évidemment, que l'enfant ait 3 ans, que l'enfant ait 10 ans, ou qu'il en ait 14, nous, on le croit dans ce qu'il évoque.
Ok, très bien. Et moi, j'avais aussi une question, pardon, je vous coupe un peu, parce que est-ce que, donc je sais que pour les violences sexistes et sexuelles, on a un espèce de violentomètre. Est-ce que c'est un peu la même chose pour les maltraitances chez les enfants, ou est-ce que c'est tout type de maltraitance est au même niveau, a le même impact psychologique plutôt?
Alors, c'est un petit peu ce que vous disiez, Noël. Bon, il ne faut pas qu'il y ait d'hiérarchisation véritablement hein, dans la question des violences, même si juridiquement, il y en a, bien évidemment. Mais c'est aussi comment l'enfant, l'ado ou l'adulte a vécu ces violences. Ça aura un impact différent selon la constitution de la personne. Quelquefois, d'être témoin de violences peut avoir un impact psychologique plus terrible que une autre personne qui aura vécu des coups physiques. Les violences psychologiques sont très difficilement identifiables, et on a beaucoup de mal, d'ailleurs juridiquement, mais ça, Régis pourra en parler un peu mieux que moi, à véritablement les identifier. Alors que les coups, malheureusement, laissent des traces. Et là, en effet, on peut faire des constats. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les violences psychologiques sont un panel extrêmement large, qui vont de l'insulte au rabaissement, à l'humiliation, à amener les enfants à des postures inhumaines. Et les impacts sont gravissimes sur la construction de l'individu.
Oui, c'était aussi une de mes questions. Est-ce que, admettons qu'on suive pas forcément qu'on n'ait pas forcément une réalisation et qu'on suive pas forcément de thérapie, est-ce que dans la vie adulte, on a tendance à rechercher un peu des schémas de destruction parce qu'on a connu que ça, entre guillemets?
Tout à fait. Noël, tout à l'heure, a parlé de chaotique, de chaos. Oui, il y a malheureusement beaucoup d'enfants devenus adultes qui auront une vie assez chaotique, avec des difficultés à maintenir un emploi, une continuité dans un emploi, des difficultés à maintenir des relations sereines dans les relations amoureuses et conjugales, ou aussi avec leur famille, et qui peuvent venir à un moment donné consulter de ce fait, et qui découvriront derrière en effet que ce qui les amène à avoir cette souffrance ou ce mal-être existentiel a à voir en effet avec ce qu'ils ont vécu dans le passé. Il faut pouvoir reconnaître ces maltraitances, il faut pouvoir les reconnaître. Et ça aussi, ce n'est pas évident. Pour pouvoir les reconnaître, il faut pouvoir comparer avec d'autres. Il faut qu'il y ait un copain de classe qui dise, et je trouve que ces quelques dernières années, il y a beaucoup d'évolution là-dessus quand même. Il y a des copains de classe qui vont voir l'infirmière du collège et qui disent, moi, ce copain-là, je viens vous voir parce que je suis inquiet, parce qu'il m'a dit des choses ou j'ai vu des marques. Donc, il y a des choses qui commencent un petit peu quand même à se relayer et à pouvoir être nommé, parce qu'il faut pouvoir en effet savoir que ce qui se passe pour nous n'est pas normal.
Oui, bah oui, oui.
Donc il faut déjà pouvoir en effet avoir des comparaisons avec ce qui se passe dans d'autres familles ou dans d'autres environnements.
Et je rajouterais effectivement, donc la peur de ne pas être crue, l'absence de comparaison parfois qui est compliquée, je rajouterais, et Noël en parlait quand on a échangé sur son parcours à plusieurs reprises, ce problème aussi de conflit de loyauté qu'on peut vivre quand c'est de la violence intrafamiliale, parce que avec l'auteur, on a une relation affective, quand c'est les parents notamment, et donc une ambivalence aussi dans sa posture de victime, parce qu'à la fois, eh ben, évidemment, on prend conscience au bout d'un moment que ce qu'on subit n'est pas normal, que ça fait souffrir, mais en même temps, c'est une personne qui aussi ne se réduit pas à la violence et qui a pu apporter des choses dans la relation, notamment entre l'enfant et le parent. Et donc ça aussi, c'est un vecteur de mutisme, hein, pour la victime, parce que elle a du mal à le verbaliser. Et ce qui est compliqué pour la justice, et Valérie en parlait très bien, c'est ces violences que j'appelle invisibles, c'est-à-dire ces violences qui ne laissent pas de traces, que sont ces violences psychologiques et parfois les violences sexuelles. Et la justice a besoin d'objectiver les situations pour pouvoir condamner, puisque le doute profite à l'accusé. Pour pouvoir condamner quelqu'un, il faut apporter la preuve des faits dénoncés. La parole ne suffit pas, il faut des preuves objectivables pour la justice, c'est-à-dire des certificats médicaux, c'est-à-dire des marques, c'est-à-dire effectivement autant d'éléments extérieurs à la parole et qui sont très très difficiles à établir dans les violences sexuelles ou psychologiques, qui par définition ne laissent pas de marque et qui pour autant sont extrêmement impactantes au niveau des séquelles, hein. Et d'ailleurs Noël en parlait très bien tout à l'heure en disant que c'est pas tant moi les coups que j'ai reçus qui m'ont fait du mal, mais le fait de voir cette violence et notamment de voir les violences sur ma mère, ça a été encore plus douloureux. Donc on voit que d'être témoin parfois de violences, c'est aussi difficile, voire plus difficile que d'en subir. Il n'y a pas de règle, hein, mais en tout cas, il faut avoir conscience que c'est très complexe et que ça a des conséquences très, très, très graves, puisque, et je terminerai là-dessus, un chiffre quand même, on s'aperçoit aujourd'hui, des études sont de plus en plus faites sur ce sujet, notamment au niveau des neurosciences, mais aussi au niveau des pathologies. On s'est aperçu qu'il y a une corrélation de plus en plus importante entre les personnes qui ont été victimes de violences durant l'enfance et des maladies auto-immunes ou des maladies comme le cancer. Donc là, en ce moment, on se rend compte de plus en plus au niveau vraiment médical que les conséquences sont importantes. Et il faut savoir qu'une personne qui a été victime de violences durant l'enfance a en moyenne, hein, c'est une moyenne évidemment, ça ne concerne pas tout le monde, mais a en moyenne 20 ans d'espérance de vie en moins qu'une personne qui n'a pas subi de violence.
C'est ce qu'on disait... la semaine dernière, pour notre émission sur les violences, la journée contre les violences sexistes et sexuelles, on avait une personne de la Maison des Femmes qui nous expliquait que en cas d'inceste, on avait une, enfin, les gens avaient une réduction d'environ 20 ans d'espérance de vie. Ouais.
Et peut-être rappeler aussi ce chiffre, hein, 160 000 enfants par an sont victimes d'agressions sexuelles. Ça veut dire qu'en France, toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'agressions sexuelles.
Oui, c'est énorme. Je pense qu'on se rend... vraiment pas bien compte. Enfin, le temps de la chanson qu'on a écoutée fait environ 3 minutes, donc c'est le temps d'une chanson, quoi.
Exactement.
Puisqu'on parle un petit peu des conséquences des violences, je voudrais aussi rajouter que les neurosciences viennent aussi nous évoquer que les ambiances de violence et évidemment les violences qui vont être agies ont des conséquences sur le développement du cerveau de l'enfant. Aujourd'hui, là aussi, les neuroscientifiques ont prouvé que la violence amenait en effet à un taux hormonal plus important qu'il ne se doit, donc hormone cortisol, qui a des effets néfastes sur le développement du cerveau de l'enfant et qui peut impacter véritablement les capacités cognitives et intellectuelles de l'enfant. Donc on voit bien en effet aussi comment les sciences viennent nous aider, ou tout ce qui est de l'ordre en effet du médical vient nous aider aussi à montrer les conséquences terribles.
Oui. Est-ce que du coup, au niveau du développement, on a beaucoup le cas où on développe des troubles cognitifs ?
Il peut y avoir en effet chez les enfants les plus jeunes, plus la violence est présente tôt, la violence elle peut être présente alors que l'enfant est encore à l'état de gestation dans le ventre de la mère. Mais plus les violences en effet sont tôt sur l'enfant, plus en effet il peut y avoir des risques de difficultés à se développer et à développer des compétences intellectuelles adaptables à notre société. Donc c'est pour ça en effet qu'il faut absolument être dans la prévention et évidemment accompagner au plus tôt les enfants.
Oui, il faut vraiment en parler,
oui,
du sujet.
Oui, oui, tout à fait. On voit bien aussi comment les enfants... Alors, je dis souvent, quand on évoque la question des manifestations et des symptômes de ces violences, tout type de violences, on parle beaucoup, en effet, d'enfants qui vont avoir des comportements agités, qui ont des défauts d'attention, de concentration, qui vont être très discrets. Mais par contre, il y a des enfants aussi qui seront très discrets, justement pour qu'on ne porte pas attention à eux et qu'on ne porte pas attention à ce qui se passe à la maison. Des enfants qui vont montrer aussi de l'hyper-adaptation, voire aussi des enfants qui seront excellents à l'école, hein, des étudiants qui seront excellents, qui auront une très très belle réussite, tout en œuvrant à mettre leur énergie à cet endroit-là pour ne pas la mettre à l'endroit émotionnel qui est très impacté.
Et est-ce qu'il n'y a pas aussi cette espèce de compensation pour aussi, parce qu'on a peur des répercussions à la maison? Par exemple, vous parlez des excellents résultats scolaires, parce que la moindre mauvaise note...
Tout à fait, la moindre mauvaise note peut avoir des conséquences. En effet, le parent peut de nouveau être dans des agirs violents. Après, il y a des familles où on ne parle pas, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, et où on travaille, enfin, où on échange qu'à partir de l'agir. Oui, il y a des enfants qui feront tout pour que... Alors, qu'à la fois à la maison, en effet, on ne soit pas donc à se centrer sur lui, et aussi qu'à l'école ou dans tous les espaces institutionnels, il n'attire pas l'attention. Je crois que Noël, vous vouliez compléter peut-être ce que je disais.
Non, je voulais vous laisser terminer ce que vous dites, ce que vous venez de dire, pardon. Et je voulais rebondir effectivement dessus. Une personne qui vit des choses comme ça, c'est important de le dire, ce que je veux dire. C'est une personne qui se fait maltraiter, on parle d'un enfant, on est bien d'accord, hein. Elle ne parle jamais. Parce qu'en fin de compte, tant que la personne méchante est présente dans le domicile, l'enfant est sans cesse sous l'emprise de la peur. Parce que l'enfant, ce que je vous dis, c'est 4 psychologues qui me l'ont dit. C'est pas moi, c'est des psychologues qui m'ont fait entendre ça. Un enfant, s'il parle, il sait, au fond de lui, au fond de son petit cœur, c'est comme ça qu'il faut dire les choses, hein, il sait que s'il parle, quand il va rentrer chez lui, la situation sera pire. Parce que lui, il se dit que, oulala, si mon papa entend ce que moi j'ai dit, ce sera pire pour moi. Donc un enfant qui vit des choses comme ça, il est sans cesse sous l'emprise de la peur. Ça, je tiens à le souligner. Un enfant a tout le temps peur. Peur du pire. Dire, oh là là, si je dis, oh là là, ça va être pire pour moi. Mais moi, je l'ai vécu. Hein.
D'où l'importance des lieux où la parole peut être libérée et entendue, parce qu'on a vu depuis tout à l'heure le nombre de facteurs qui poussent la victime à être dans le mutisme, hein, la peur, l'emprise, la culpabilité, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais oui. Ça c'est extrêmement important dans chaque victime, hein. Si je suis victime de violences, voire de violences sexuelles, c'est que je l'ai mérité, voire que je l'ai cherché. En plus, au pire de cela, c'est que parfois on peut en trouver du plaisir parce que le corps parle aussi. Alors là, ça crée aussi une confusion dans tout ça qui est encore plus complexe. Donc
surtout quand on est jeune et qu'on ne connaît pas.
Ben, bien sûr, la honte aussi est un facteur très puissant. Hein. Souvent, les victimes nous disent « j'ai honte », soit de ma famille, soit de mon père, soit de ce que j'ai subi, je me sens sali. Donc on a vraiment des tas de raisons de ne pas parler et de s'emmurer dans le silence. Et une fois qu'on prend conscience de cela, et notamment quand on est étudiant, quand on... prendre la distance par rapport à son parcours, c'est important d'en parler. Et il y a des lieux sécurs pour en parler, où on va pouvoir être accompagné et où la peur va pouvoir disparaître, la confiance va pouvoir s'installer grâce, encore une fois, à des suivis thérapeutiques, grâce à notre société qui prévoit des réponses judiciaires à ces actes-là qui sont graves et qui sont interdits. Et donc, moi, j'ai envie aussi que les jeunes qui nous entendent sachent que c'est normal, peut-être, de ne pas avoir pu en parler avant, mais que c'est jamais trop tard pour parler, et que, comme le disait Valérie tout à l'heure, on va vous croire. Et la CIVIS qui avait été créée, la commission indépendante sur les infractions sexuelles, l'inceste sur les enfants, qui était présidée par Édouard Durand, dans chaque réunion publique qui était faite, était écrit en gros sur la diapositive « On vous croit ». Donc à l'enfant bleu, on va vous croire là où vous en êtes, à l'endroit où vous en êtes. Qu'importe si ça correspond à une vérité objective ou pas, le ressenti, c'est celui de la victime, exactement. Ouais. Et ça, ça commence par là, la confiance commence par là. Parce que même les victimes, des fois, sont très lucides, nous disent « mais je vous dis ça, mais je suis même plus sûre ». Et puis la réviviscence, c'est par flash, j'ai l'impression de tout mélanger, mais voilà ce que je ressens. Ce ressenti, cette souffrance, la mémoire traumatique qui revient parfois par bribes, on va l'accueillir, on va évidemment ne pas la juger, et ça c'est important, et on va accompagner par des thérapies individuelles à l'enfant bleu, mais aussi par des groupes de parole, et je crois que c'est important qu'aussi on communique là-dessus, on propose des groupes de parole, et qui peut être aussi un outil très très efficace hein, de reconstruction par l'échange, par l'effet miroir entre victimes qui sont entourées par deux psychologues, dont Valérie Bresse.
Sentir qu'on n'est pas seul dans cette situation, mine de rien.
Alors ça, c'est un élément très important, en effet, au-delà de notre écoute et de pouvoir, en effet, aider donc les patients, les victimes à pouvoir, en effet, libérer leurs paroles, parce que ça permet de se rassurer, ça permet de se sentir mieux, d'aller mieux. Il y a en effet l'espace individuel. Dans les thérapies, nous sommes quand même très à l'écoute du rythme de la personne. Et on fera en effet comme elle peut. Certaines personnes ont besoin de parler directement, en effet, de ce qu'elles ont vécu, des faits et d'autres. Ça sera plus timide, plus sur la réserve, mais on est très, 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 très vigilant sur cette rythmicité. Et en effet, pour un certain nombre, au-delà de la question d'une prise en charge individuelle, le groupe est quelque chose qui est là aussi extrêmement restaurateur, parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont traversé des choses un peu similaires. Comme on le dit, il n'y a pas d'hiérarchisation, il n'y a pas une personne qui aura plus souffert qu'une autre, mais en tout cas, il y a une possibilité de s'identifier. Et ça, c'est très, très important. C'est très restaurateur. Et elle permet donc, du coup, de créer de la solidarité et quelque chose de l'ordre d'une énergie collective pour pouvoir avancer. Donc, c'est aussi un dispositif qui est souvent demandé, sollicité, et dans lequel on essaye de répondre, on va dire, sur à peu près un an, 18 mois, aux attentes des participants.
Et en fait, tout à l'heure, vous nous parliez aussi du juridique. Est-ce que les thérapies... Alors, je ne vais pas dire qu'elles ont pour but d'amener à une plainte, parce que je pense pas... Enfin, les thérapies ont pour but le but de la personne. Mais est-ce que ça arrive souvent que vous redirigez vos patients vers des décisions de justice?
Alors oui, comme vous dites, la question de la thérapie, c'est une question aussi très intime. Ça appartient à la personne. Et notre but, c'est que la personne aille mieux. Vous avez parlé tout à l'heure d'acceptation. Oui, c'est accepter l'histoire qu'on a eue. On n'efface pas les traumatismes.
Et on n'efface pas. On pardonne pas forcément non plus. D'ailleurs.
Et on pardonne pas forcément non plus. Et le pardon n'est pas nécessaire pour se restaurer, pour se réparer. C'est important de dire en effet qu'on n'efface pas ce qu'on a vécu. Hein. On le transforme. On peut en faire une force. On l'accepte. Enfin, il y a différents moyens en effet de se restaurer et de se réparer. Et le parcours en parallèle ou en complémentarité du côté donc de la justice, là aussi, c'est selon ce que le patient va désirer, va amener. Quelquefois, le patient arrive, c'est une évidence pour lui. Quelquefois, il arrive en vous disant « Moi, je ne veux que traiter la question thérapeutique et psychologique. Je ne veux surtout pas que vous me parliez de procès, de confrontation. Ça, c'est, pour moi, ce n'est pas possible. » Et on va le respecter, même si en avançant, il peut changer d'avis, bien évidemment.
Oui.
Et pour d'autres, en effet, on va peut-être nous-mêmes aussi, dans ce qu'on entend, peut-être proposer, dire timidement, mais le dépôt de plainte, qu'est-ce que vous en pensez ? Et il peut s'en saisir ou pas s'en saisir, mais ce n'est pas une obligation.
Et à l'inverse, je te coupe, je me permets, à l'inverse, on a des gens, des victimes qui vont nous contacter pour déposer plainte, pour dire j'ai besoin d'être accompagné, je veux faire une démarche, et on s'aperçoit que c'est peut-être prématuré et que la démarche faite dans la précipitation peut être très délétère. Et donc on va aussi parfois, mais pareil, on respecte évidemment la volonté de la personne, mais lui dire bah, peut-être qu'il faut poser les choses, qu'on en parle, qu'il y ait une thérapie qui se mette en place pour accompagner au mieux la personne dans une démarche juridique. Donc c'est vraiment dans les deux sens, et c'est vraiment l'ADN de l'enfant bleu d'avoir cette double approche juridique et thérapeutique, parce que c'est un sujet qui concerne les deux, et le juridique peut être un facteur, un outil en tout cas pour la thérapie, mais ce n'est pas un passage obligé, quoi.
Tout à fait, mais tu résumes bien les choses. Oui, c'est là aussi, c'est un outil, c'est un appui. Selon même les démarches, bon, juste un dépôt de plainte, et comme je le dis assez souvent parce que c'est ce que je vois aussi chez certains patients, la reconnaissance du dépôt de plainte, que le procureur puisse venir dire en effet « Ah ben là, par rapport à ce dépôt de plainte, je pense qu'il faut ouvrir une enquête. » Ce qu'a dit la personne, lui aussi, il lui donne une valeur à cette parole-là. C'est souvent une première étape de reconnaissance et qui peut être suffisant aussi pour le patient. Pour d'autres, il faudra aller plus loin, ou peut-être que ça se fera, ou peut-être qu'il sera déçu parce que ça n'ira pas plus loin. Et là aussi, il faudra accompagner ses vécus de déception, ou aussi très ambivalent, avec la volonté et en même temps terriblement peur, en effet, que ça aille plus loin dans la possibilité, en effet, d'un procès. Voilà, on s'adapte vraiment et en effet, ça se complète, c'est un appui. Enfin, voilà, on est véritablement à l'endroit du rythme et des besoins de la personne.
Et alors ça, c'est moi qui me pose la question. Mais par exemple, bah, parce que on peut en parler à n'importe quel âge, en fait, la réalisation n'a pas une date limite. Est-ce que, par exemple, des patients qui ont passé la trentaine ou la quarantaine peuvent engager encore des démarches juridiques ?
Alors, vous posez la question de la prescription, c'est comme ça qu'on l'appelle dans notre jargon juridique. Hein. La prescription, c'est la perte d'un droit à l'écoulement d'un certain délai, qui était très courte hein, en droit français jusqu'à peu. Aujourd'hui, des réformes législatives récentes ont allongé la prescription, notamment à l'initiative de projets de loi initiés par l'Enfant Bleu. Et aujourd'hui, pour les faits les plus graves, et notamment pour les faits d'agression sexuelle, de viol sur enfant, la personne a 30 ans après la majorité pour déposer plainte. Donc, pour les victimes de viol durant l'enfant, on est jusqu'à 48 ans. Donc les choses ont vraiment changé. Donc maintenant, une personne peut déposer plainte assez tard. Ça concerne que les viols sur mineurs. Pour les agressions sexuelles, c'est 20 ans après la majorité. Donc il y a des chiffres différents. Je ne vais pas tous les reprendre, ça serait trop long. Mais en tout cas, c'est là où c'est important aussi que la victime soit informée. Puisque pour se restaurer, se reconstruire, l'information est très importante. C'est-à-dire de rappeler la règle, de rappeler qu'on est dans une société qui protège, qui condamne ces actes-là, c'est important aussi, parce que ça dépasse la personne, et c'est de dire à la personne, mais c'est pas vous qui dites que c'est la société. Et ça aide, je crois, aussi dans la thérapie à entendre ce genre de choses. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir pour les jeunes, et notamment les étudiants qui nous écoutent, c'est que dans n'importe quelle situation quasiment de violence aujourd'hui, lorsqu'on est encore un jeune étudiant, il n'y a pas de prescription et que les démarches sont possibles.
Rappeler les interdits, c'est très important. Souvent, on le fait. On est obligé de le rappeler.
À la fois avec une casquette de juriste et à la fois avec une casquette de thérapeute. C'est vraiment, c'est le cadre en fait. C'est que quelque part, la violence, je le disais tout à l'heure, c'est une destruction de la communication, une destruction du langage et une destruction des repères. C'est-à-dire qu'on a une inversion des rôles. On a parfois de la parentification qui va se créer. C'est-à-dire que l'enfant va prendre le rôle protecteur, par exemple, de la mère victime de violence. On a, tout est chaotique, ça a été dit, je le redis, et tout est mélangé. Et la justice, vous savez, c'est la balance qui est déséquilibrée qui va rééquilibrer les choses et remettre chacun à sa place. Dans les violences intrafamiliales, très souvent, la victime se sent coupable et le coupable se victimise. Et donc, la justice va simplement redire qui est coupable et qui est victime. Et ça fait un bien fou.
Et on en parlait un peu avant l'émission aussi, qu'il y avait pas mal de gens qui ne voulaient pas parler de ces violences, que ce soit donc, des gens extérieurs ou les gens concernés, par peur que ce soit pire pour la personne. Est-ce que... Est-ce que vous pouvez un peu plus nous en parler de ça ?
Alors moi, je rappellerai simplement, parce que je mets ma casquette de juriste, hein, que c'est une obligation juridique, hein, de tout citoyen de dénoncer des faits de violence commis sur enfant. Donc j'ai envie de dire, ça clôt le débat. La loi est très claire là-dessus et c'est une infraction pénale de ne pas le faire. On encourt 3 ans d'emprisonnement si on ne dénonce pas des faits dont on a pleinement connaissance de violence sur enfant. Donc il faut quand même rappeler aussi les obligations citoyennes. Hein. Dans notre devise républicaine, il y a la fraternité. Et la fraternité commence par protéger son prochain et notamment les personnes vulnérables que sont les enfants. Donc vous devez dénoncer des faits de violence sur enfants si vous en avez connaissance. L'argument qui consiste à dire soit j'ai peur que ça soit pire après, soit j'ai reçu des révélations mais dans le cadre d'une confidentialité, on m'a fait confiance et je veux pas que l'enfant qui m'en a parlé veut pas que j'en parle, c'est des arguments qu'on entend souvent et qui ne peuvent pas être des arguments qui poussent au silence. Pourquoi ? Parce que si un enfant subit des violences, et Noël en a très bien parlé, de la violence que ça peut être de vivre ça en tant qu'enfant, il y a pas pire. Donc pourquoi ça serait pire ? De toute façon, la situation est terrible. Donc il faut faire quelque chose, il faut en parler pour essayer de faire en sorte que l'enfant soit protégé. Et heureusement, il existe quand même des dispositions et des dispositifs en France pour protéger l'enfant. Donc encore une fois, quand on a connaissance d'une situation très inquiétante, voire d'une situation avérée de violence, le pire c'est de se taire et de laisser perdurer cette situation.
Oui, tu as parlé de comment la violence détruisait la parole et la communication. Je pense qu'on peut aller plus loin, c'est-à-dire que la violence, elle détruit l'humanité, elle détruit la personne. C'est pour ça, en effet, que ne pas venir nommer la question de ces violences est très préoccupant. Oui, alors, bien sûr que ce que redoute la victime, c'est à la fois, en effet, comme on l'a dit, de ne pas être crue. Ce que redoute la victime, c'est la reviviscence, comme on l'a dit, évidemment, de tout ce qu'elle a traversé et qui est extrêmement douloureux, selon en plus comment elle développe ses propres symptômes et manifestations. Ce que redoute la victime, c'est d'être mis au banc, c'est-à-dire que celui qui vient révéler, il est aussi au risque peut-être de plus faire partie de la famille ou de plus faire partie, en effet, de tel ou tel lien et collectif de proches. Donc c'est tout ça dont il redoute et que du coup la justice ne soit pas à l'endroit de l'entendre. Peut-être aussi malheureusement étayé par 2-3 faits qui ont été médiatisés et qui sont venus montrer en effet que la parole était quelque chose de très fragile.
Oui, et donc malheureusement, ça fait déjà presque une heure qu'on discute, donc on va faire une petite pause musicale et on conclura juste après. Je vous laisserai le mot de la fin.
Try not to talk too loud. Maybe it's because I'm
Doucement de notre fin d'émission. Donc déjà, je vais vous remercier d'avoir été là pour présenter l'association, pour présenter cette cause qui est vraiment hyper importante. Et est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Ou un long mot de la fin?
Alors
comme vous
moi, ce qui me semble important en tout cas, c'est que voilà, il n'y a pas d'âge pour redevenir acteur de sa vie et se restaurer. Je pense que ça, c'est très, très important de pouvoir le transmettre. Donc, il y a, comme on l'a vu, un certain nombre de dispositifs qui sont donc à disposition. Et avec peut-être l'aide d'autres personnes, pouvoir s'autoriser, en effet, à les contacter. Voilà. Il y a toujours moyen de se restaurer.
Effectivement, des dispositifs existent. On n'a pas parlé du 119, je crois que c'est important d'en parler. Hein. Quel numéro vert enfant en danger? Donc ne pas hésiter à le composer si on a connaissance d'une situation de danger pour un enfant ou si soi-même on a eu un parcours compliqué et qu'on veut commencer à en parler. Et sinon, bien sûr, n'hésitez pas à appeler, envoyer un mail à l'Enfant Bleu ou à franchir les portes de notre association. Vous aurez une équipe de 19 personnes, de professionnels spécialisés et d'écoutantes qui seront à votre disposition pour vous accompagner, encore une fois, en respectant votre rythme, en respectant votre temporalité, là où vous en êtes, et c'est un lieu où on vous croira, on vous écoutera, et on pourra vous proposer un accompagnement professionnel.
Et si on veut aller à votre association, elle se situe où?
Alors, l'association, elle est située au 18 allée de l'école Vaucanson à Grenoble, entre le lycée Vaucanson et le lycée Louise Michel, pour ceux qui connaissent, et peut-être que certains étudiants étaient dans ce lycée. On n'est pas loin aussi du lycée des Eaux-Claires. Donc, c'est un quartier, on appelle le quartier des trois lycées, puisqu'il y a, dans un périmètre très, très réduit, trois lycées. Voilà, donc c'est assez identifiable. Et puis, je rappelle notre numéro de téléphone, le 04 76 86 16 69, et notre mail eb-iser@enfantbleu.org. Mais je crois que vous aurez toutes ces coordonnées à disposition sur le site, dans le podcast et sur Radio Campus. Mais je crois que c'est important encore une fois de communiquer et sur ces coordonnées, et puis n'hésitez pas à venir nous voir, à échanger.
Oui, on vous croit surtout.
C'est ça.
Je pense que c'est aussi un bon mot de la fin de dire on vous croit, peu importe ce que vous avez vécu.
Et c'était quoi? L'apérophonie. Ouais, mais c'était quoi? L'apérophonie. C'est quoi?
L'apérophonie.
Quoi?
Sur Campus Grenoble.
Sur quoi?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.